en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité, de m'introduire en des termes aussi généreux, et je dois dire toute ma joie et mon émotion de parler en ce lieu auguste et d'être écouté par plusieurs personnes qui ont joué un grand rôle dans ma vie, à commencer par le recteur Saint-Cernin qui m'a, en plus d'un sens, ouvert la voie de la philosophie institutionnelle et dans sa substance, et aussi mon ancien président d'université et de très éminents collègues de ce qui s'appelle aujourd'hui l'université Paris-Sorbonne, et qui s'appelait encore, quand j'y suis entré, l'université Paris 4. Je vais donc lire mon texte, et effectivement, la question de la naturalisation, du naturalisme est la question clé. Je n'entends pas proposer un texte de vulgarisation des sciences cognitives. J'essaierai de les caractériser rapidement. Mais bien entendu, peut-être au cours de la discussion, si certaines de mes descriptions vous paraissent trop enveloppées, trop allusives, je serai évidemment très, très heureux de m'étendre davantage. Donc le titre de mon intervention est la suivante. Les sciences cognitives seront-elles naturalisées les sciences humaines? J'ai mis évidemment des guillemets autour de naturaliser. Et mon propos se divise en quatre sections, dont la première est position du problème. Sous différentes appellations, les sciences cognitives sont désormais bien visibles dans le paysage scientifique et dans les médias. Elles ne sont pas pour autant clairement identifiées. Se confondent-elles avec les neurosciences, visant à expliquer le fonctionnement du cerveau, avec la psychologie du développement, vouée à identifier le bagage mental du nouveau-né et l'ontogénèse de l'appareil mental, avec l'intelligence artificielle, une technologie informatique œuvrant à simuler les processus mentaux de base et compléter, sinon remplacer, l'être humain dans des tâches perceptives, motrices et intellectuelles au moins élémentaires, sinon plus élaborées. Reprennent-elles simplement, avec des outils plus raffinés, l'ordre du jour traditionnel de la psychologie, et se ramènent-elles, en fin de compte, à identifier certaines constantes du fonctionnement mental de l'être humain? Ont-elles partie liée à l'inéisme? Nous pouvons nous contenter provisoirement de dire que les sciences cognitives sont un peu tout cela à la fois, en repoussant la question à l'arrière-plan, quitte à y revenir selon que de besoin, pour nous concentrer sur l'essentiel. Quelle différence les sciences cognitives font-elles quant à l'avenir des sciences humaines? Par sciences humaines, j'entends, sans polémique, pour simplement avoir un terme rapide, j'entends ici l'ensemble de ce qu'on appelle les SHS, les sciences de l'homme et de la société. Et si la réponse à cette question, quelle différence les sciences cognitives font-elles quant à l'avenir des sciences humaines, si la réponse d'aventure était aucune ou fort peu, savoir ce que sont au juste ces sciences cognitives ne serait pas, dans la présente enceinte, d'une urgence particulière. Mais s'il en va autrement, si l'on a quelques raisons de penser que les sciences cognitives sont appelées à jouer un rôle croissant dans les sciences humaines, alors il importe de se demander si elles vont parvenir à leurs fins, s'interroger sur ces fins et examiner dans quelle mesure elles sont compatibles avec celles que se donnent les sciences humaines, si tant est que ces dernières procèdent d'une inspiration générale ou majoritaire. Je partirai d'une conjecture simple. Les sciences humaines sont hostiles au naturalisme. Les sciences cognitives sont une entreprise de naturalisation de l'humain. Ergo, les deux domaines s'opposent l'un à l'autre de la manière la plus frontale. Pour le dire autrement, selon cette représentation volontairement simpliste de la situation, à la question titre de mon intervention, les sciences cognitives seront-elles naturalisées les sciences humaines, beaucoup d'entre vous auraient probablement déjà répondu, soit sûrement pas, soit espérons que non. Mon but n'est pas de prendre le contre-pied en défendant à la fois les sciences cognitives et le naturalisme, mais de montrer que la question doit être prise autrement, d'en préciser les termes et de les modifier suffisamment pour ouvrir des perspectives nouvelles. Il faut d'abord préciser ce que j'entends par naturalisme. Le terme revêt des acceptions multiples, parfois incompatibles, et se charge de surcroît, dans bien des contextes, de connotations péjoratives ou laudatives. Le naturaliste est, primitivement, celui qui voit dans la nature l'origine et le lieu de toute chose, et dans le regard posé sur la nature, la source première de la connaissance. À cette altitude, le naturaliste par excellence est Goethe, l'Augenmensch, l'être de regard. Ce qu'il faut entendre par nature importe moins initialement que le fait qu'elle soit une. Le naturalisme est le rejet du dualisme, de toute forme de dichotomie considérée comme procédé facile pour éviter les vrais problèmes. De cette racine commune, deux grandes traditions sont issues. La première est ce que j'appellerais, le terme n'est pas, disons, classique, le naturalisme ordinaire, pour lequel la nature est ce à quoi renvoie notre condition d'être humain, organisme habitant un environnement, engagé dans un cycle de vie naturel, déployant naturellement le langage, doté de facultés naturelles, pratiques et en particulier mentales. La seconde forme de naturalisme est le naturalisme scientifique, celui auquel on se réfère aujourd'hui le plus souvent, au point d'omettre la plupart du temps le qualificatif scientifique. Ce naturalisme possède lui-même deux volets qu'on peut ou non associer. Le naturalisme ontologique se prononce sur la nature comme sphère de l'existant. Dans l'une de ses versions les plus répandues, le physicalisme, cette sphère est le domaine de la science physique. Le naturalisme épistémique, quant à lui, affirme que les sciences de la nature sont la seule voie d'accès à la connaissance authentique. Et par science de la nature, il faut entendre non seulement les disciplines actuellement cultivées dans les facultés des sciences, mais toute discipline existante ou à naître, abordant son objet par des méthodes semblables à celles des sciences de la nature d'aujourd'hui. Tout cela soulève des questions qui pourraient nous occuper jusque tard dans la nuit, mais que nous devons laisser de côté pour nous concentrer sur ce qui est le cœur du débat que je voudrais susciter, à savoir la thèse selon laquelle les sciences de la nature nous donnent accès à une compréhension scientifique des phénomènes humains et qu'elles sont les seules à le faire. En particulier, selon cette thèse, si, comme on est porté à le penser, les sciences humaines veulent développer une véritable science des phénomènes humains, elles doivent adopter, si ce n'est déjà fait, des méthodes semblables à celles des sciences de la nature. Tout cela pour en arriver là, demanderez-vous peut-être. Allons-nous vraiment poser une fois encore la question de la dichotomie, ou pour reprendre le terme de Chomsky, de la bifurcation entre deux types de sciences? Je vous rassure, nous allons inverser l'ordre de l'examen. Au lieu de partir d'une conception de ce qu'est une science de la nature et de ce qu'est une science humaine, et de juger de la thèse en question à partir de cette conception, nous partons d'une situation concrète, celle des recherches en cours, pour éclairer notre réflexion sur ce que pourrait être une science de l'homme et sur la part qui prendrait les méthodes, les approches développées aujourd'hui dans les différentes disciplines concernées. Si l'on veut que la discussion s'engage, il faut éviter de trancher prématurément. Imaginons en effet la scène suivante. L'un d'entre vous m'interrompt et me demande si je conviens que l'homme est un être libre, un être de projet, qu'il est situé dans un contexte historique, qu'il est façonné par sa culture, qu'il est un animal qui s'interprète lui-même, selon l'expression de Charles Taylor, etc. Et je réponds que oui, j'en conviens. Mon interlocuteur me demande alors, les sciences cognitives prennent-elles ces évidences pour objet? Et je réponds que non. Mon interlocuteur conclut alors à peu près ainsi. L'entité dont les sciences cognitives prétendent constituer la science n'est pas l'être humain auquel nous nous intéressons, mes collègues et moi-même. La naturalisation dont votre titre évoque l'éventualité est impossible, faute d'un objet commun. Que chacun vaque à son affaire, nous n'avons rien à nous dire. Ce serait aller trop vite. D'un côté, rien n'exclut que les sciences cognitives ou d'autres sciences naturelles de l'homme, nous allons y venir, sans partir des notions chères à mon interlocuteur, puissent les aborder à un stade avancé de leur enquête. Et de l'autre, ni mon interlocuteur imaginaire ni sans doute quiconque, ne songe à nier la constitution naturelle de l'homme. Nous sommes tous, à des degrés variables, amenés à jeter sur nos semblables et sur nous-mêmes le regard du médecin et de l'officier. Carcasse aussi, pour reprendre le terme du duc de Rohan. On peut entretenir l'espoir, qui a du reste longtemps nourri une certaine doctrine morale officielle, qu'un filtre puisse séparer nettement en chacun l'être naturel de l'être spirituel. Mais ce n'est qu'un espoir ou un idéal. La question est posée. Elle l'a été en cette enceinte même, récemment, lorsque votre chancelier a évoqué la place centrale des sciences morales et politiques en les situant, je cite, « à l'interface entre les sciences de l'homme et les progrès scientifiques », fin de citation, « chargé d'empêcher, je cite à nouveau, que le progrès scientifique, je modifie un peu, continue de dominer trop exclusivement les relations sociales et même la vie intellectuelle », fin de citation. Je ne parle pas d'autre chose, mais ce qui, pour Gabriel de Broglie, est un outil d'intelligibilité, à savoir la notion d'interface entre science de l'homme et ce qu'il appelle progrès scientifique, est pour mon propos le problème, la notion à interroger, non par l'analyse conceptuelle ou la réflexion éthique, mais à partir d'une conjoncture scientifique précise qu'il faut maintenant enfin examiner de plus près. Ma seconde section est intitulée « Les sciences cognitives, deux points, le premier projet d'une science naturelle de l'esprit ». Annoncée dans les années 1940, née 10 ans plus tard, baptisée 20 ans après, les sciences cognitives ont progressivement élaboré un cahier des charges auquel elles se tiennent encore pour l'essentiel aujourd'hui. Il s'agit pour elle de constituer une théorie, aussi intégrée que possible, des capacités mentales générales de l'être humain, considérées par elle-même et en tant que fonction du système nerveux central. La liste de ces capacités est ouverte. Elle comprend non seulement, à titre au moins provisoire, celles que l'observation ordinaire et la psychologie traditionnelle ont distinguées, depuis la perception jusqu'à la motricité, en passant par le langage et le raisonnement, mais aussi, d'une part, d'autres grandes capacités dites verticales, telles l'aptitude à établir des liens avec autrui, ou la navigation, la capacité de trouver son chemin dans un environnement plus ou moins familier, ou encore horizontales, telles la mémoire, l'attention, la catégorisation. Et d'autre part, des capacités au grain plus fin, la localisation d'une source sonore, l'identification d'un visage, la capacité de suivre un regard pour en identifier la cible, la saisie rapide d'un petit nombre d'objets, la détection de la causalité, la reconnaissance de l'agentivité, ainsi que des facultés personnelles, telles que le sens du soi ou les émotions. Les sciences cognitives ne reculent pas non plus devant les dimensions les plus énigmatiques de la pensée. L'intentionnalité, au sens philosophique du terme, ce en vertu de quoi les mots et les pensées renvoient à des entités ou états de fait, réels ou irréels, qui leur sont extérieurs. La conscience, le libre arbitre, la motivation, les valeurs, la croyance, la souffrance. Cette caractérisation sommaire des sciences cognitives ne nous dit rien de la manière dont l'entreprise est conduite, des succès qu'elle remporte, ni des difficultés qu'elle rencontre. Elle suffit cependant pour mettre en lumière les trois caractéristiques qui nous importent ici. La première est l'étendue illimitée du domaine qu'elle vise. Les sciences cognitives entendent s'emparer de la vie mentale dans son entièreté. Elles ne se limitent pas, comme on a pu longtemps le penser, aux opérations élémentaires de la cognition dite parfois « froide », celles que mesurent, par exemple, les tests de quotient d'intelligence, ni, à l'inverse, aux réflexes qui sous-tendent certaines fonctions primitives sans avoir d'incidence sur les processus supérieurs, notamment volontaires. Elles ne se cantonnent pas non plus à un niveau de description particulier, par exemple, celui des interactions neuronales ou, à l'inverse, celui des algorithmes informationnels. Il n'y a donc aucune raison de douter qu'elle vise à construire une science naturelle du mental sans respecter quelques frontières traditionnelles que ce soit. En ce sens, S'il est vrai que les sciences cognitives s'inscrivent dans le droit fil de la psychologie scientifique née au XVIIIe siècle, leur portée épistémologique et leur potentiel naturalisant, si je puis m'exprimer ainsi, sont d'un ordre de grandeur supérieur. Pour le dire trop vite, la psychologie avait le choix, jusque-là, entre l'étude naturaliste des bases réflexes de la cognition et l'étude des processus supérieurs, menée en pratique et malgré les ambitions premières d'un Freud, très au large de l'option naturaliste, quand elle n'y était pas franchement opposée. L'économie, les sciences politiques et morales dans leur ensemble sont invitées par les sciences cognitives à réviser, de fond en comble si nécessaire, leurs hypothèses sur les motivations, les raisonnements, les choix et les plans d'action des agents. La deuxième caractéristique des sciences cognitives est qu'inversement, l'empire qu'elles revendiquent n'excède pas les limites de l'individu. Sans doute la dimension sociale a-t-elle rejoint, depuis une vingtaine d'années, leur ordre du jour. Mais c'est sous la forme d'une « faculté sociale », entre guillemets, en vertu de laquelle l'individu, dès ses premières heures de vie, s'oriente vers autrui d'une manière spécifique, qui diffère de son rapport naissant aux objets ordinaires. Faculté qui se développe, vers 3-4 ans, en une théorie de l'esprit, c'est un terme technique, terme de l'art désignant l'aptitude à appréhender les croyances et désirs d'autrui. Ainsi, à jour récent, que ses émotions. Et à prédire, sur cette base, ses intentions et son comportement. Conjecturer correctement les intentions d'autrui est en particulier et de manière essentielle au fondement de la communication, dont il est évidemment difficile de sous-estimer l'importance pour notre condition. On demandera peut-être en quoi pourrait consister une plus entière prise en charge de la dimension sociale, sauf à renoncer à un individualisme méthodologique minimal qui fasse de l'organisme humain le siège de la pensée et la source causale première de la vie sociale, on ne voit peut-être pas sur quoi de plus il faudrait faire porter le regard. Question d'autant plus légitime que, longtemps, les sciences cognitives, elles-mêmes, n'ont pas songé à étendre le leur. Nous y viendrons dans un instant. Mais il faut encore dire ce qu'est la troisième caractéristique annoncée. Elle va également dans le sens d'une limitation. La connaissance qu'il s'agit de construire est de nature théorique. Ce sont les régularités de la vie mentale et des activités cérébrales sous-jacentes qu'il s'agit de mettre au jour. Les épisodes singuliers ne relèvent pas, du moins directement, des sciences cognitives. Prises ensemble, les options de l'individualisme et de la généralité érigent une frontière contenant les sciences cognitives et au-delà de laquelle, pourrait-on penser, se déploieraient sans contrainte les schèmes traditionnels des sciences sociales et des sciences historiques. Troisième section, le tournant darwinien. Le titre de la section précédente l'annonçait. Le titre était, vous vous souvenez, un premier pas, le premier projet d'une science naturelle de l'esprit. Donc, le projet dont il vient d'être question n'était qu'une première étape. C'est ce dont les spécialistes ont pris conscience, sans être nécessairement d'accord sur l'importance de la deuxième étape. Et en dehors de leur cercle, la nouvelle phase, qui ne date guère que d'une quinzaine d'années, n'a généralement pas été remarquée. Le point de départ pour cette deuxième étape a consisté en un renforcement de l'approche individualiste, ce qui peut paraître paradoxal vu que j'annonçais justement une extension au-delà. Mais dans un premier temps, ça a consisté à renforcer l'approche individualiste. À l'analyse à deux niveaux, neuronal et fonctionnel, de la structure de l'esprit, ce qu'on pourrait appeler, en détournant le sens du terme, sa physiologie, certains chercheurs se sont avisés, à la suite notamment du philosophe Daniel Dennett, d'ajouter la dimension phylogénétique. L'esprit et le cerveau sont, après tout, comme tout organe vivant, le produit de l'évolution. Et comme dans tout le règne vivant, la biologie évolutionniste complète les explications physiologiques. Elle peut nous permettre de comprendre pourquoi notre cognition est organisée comme elle l'est, à quelle fonction elle est adaptée et, à contrario, pourquoi elle semble malhabile à certaines tâches pour lesquelles elle n'a pas été, entre guillemets, bien sûr, conçue. C'est une application, au cas particulier de l'organe cognitif, de ce qu'on appelle parfois la maxime de Dobzhansky, selon laquelle rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de la théorie de l'évolution. Il s'agit, je le dis entre parenthèses, en réalité d'un contresens assez massif sur la pensée du grand généticien, mais l'idée elle-même, qui est l'interprétation habituelle de cette maxime, fait sens, et c'est d'elle que procède le tournant darwinien dont je parle. De cette idée, donc, est né un faisceau de programmes de recherche aux intitulés divers, allant de la psychologie évolutionniste à l'écologie comportementale, à l'éthologie humaine, et ainsi de suite. La psychologie évolutionniste, à laquelle je me tiendrai un moment, a le même objet, on l'a compris, que les sciences cognitives de la première phase. Cet objet, c'est l'esprit, vu comme ensemble des fonctions informationnelles du cerveau. Mais c'est en tant que produit de l'évolution biologique, au sens précis du terme, c'est-à-dire résultant de la sélection naturelle agissant par le biais du génome, que l'esprit est considéré. La psychologie évolutionniste s'inscrit, à n'en pas douter, dans la continuité de la sociobiologie, dont la presse, particulièrement dans notre pays, est aussi mauvaise qu'il est possible, plus mauvaise sans doute qu'elle ne le mérite. La psychologie évolutionniste se distingue néanmoins de cette sociobiologie principalement par le fait qu'elle ne cherche pas à expliquer directement les comportements, lesquels ne sont pas héritables et ne sont donc pas en eux-mêmes la cible de l'évolution, mais les structures cognitives dont ces comportements résultent. Dès lors que l'organisme est suffisamment complexe pour que ces comportements ne reflètent pas ces structures, la différence est essentielle. S'y ajoute la considération temporelle. Le cerveau humain dont nous héritons est venu à maturation sur le plan phylogénétique au cours du Pléistocène, qui diffère à de nombreux égards de l'environnement actuel. Quand nous cherchons à détecter les traits adaptatifs de l'esprit, c'est donc à des aspects pertinents de cet environnement primitif qu'il faut se référer. De ces prémices, la psychologie évolutionniste tire trois types d'effets. Premièrement, des hypothèses précises relevant essentiellement de la psychologie sociale, tout particulièrement, comme on peut s'y attendre, concernant la vie reproductive des individus des deux sexes, mais touchant également à d'autres domaines tels que l'agressivité et la criminalité, les comportements de groupe, les troubles mentaux, et ainsi de suite. Deuxième type d'effet, une hypothèse générale sur l'architecture de l'esprit, selon laquelle il serait formé, pour l'essentiel, d'un grand nombre de modules spécialisés, compris comme autant d'algorithmes permettant de résoudre rapidement et au mieux certains problèmes d'importance vitale. Éviter le danger, appréhender un partenaire possible, et ainsi de suite. Troisièmement, une orientation générale de la pensée, ou si l'on préfère, une grille de lecture qu'on peut qualifier de fonctionnelle ou d'adaptative, et qui consiste à poser, devant tout phénomène mental régulier, la question de savoir s'il remplit ou contribue à remplir une fonction adaptative ou s'il manifeste au contraire une contre-adaptation résultant de l'écart entre les conditions primitives et celles qui prévalent aujourd'hui ou encore s'il est l'effet d'une exaptation, c'est-à-dire du recyclage d'une structure mentale ou neuronale à des fins différentes de celles qui avaient conduit à sa sélection. C'est par exemple l'exemple favori de Stanislas Dehaene de l'Académie des sciences qui pense que les structures neurales sous-tendant la lecture sont résultent d'un recyclage. Il est clair qu'au Pléistocène, nous n'avons pas été sélectionnés pour apprendre à lire et à écrire, mais que ces processus sont aujourd'hui tellement automatiques et rapides qu'ils ne peuvent résulter que d'un recyclage neuronal. Le projet, les prémices et les résultats de la psychologie évolutionniste font l'objet de controverses particulièrement violentes, opposant non seulement les partisans de l'application de la théorie de l'évolution aux affaires humaines à leurs adversaires, cette polémique-là a commencé avec Darwin et ne s'est jamais éteinte, mais également les psychologues évolutionnistes à d'autres chercheurs et philosophes des sciences cognitives adhérents au naturalisme le plus résolu, et enfin entre elles les différentes écoles au sein du mouvement évolutionniste. Aussi auriez-vous quelques raisons d'estimer qu'il n'est pas urgent de vous préoccuper d'un éventuel impact de la psychologie évolutionniste sur vos propres travaux. Mon intention n'est pas de plaider en sa faveur, d'autant moins que, dans mon jugement, les réserves l'emportent, en l'état présent des recherches, sur les raisons qu'on peut avoir de les soutenir. En revanche, je voudrais à présent, comme je l'avais annoncé, ouvrir une perspective qui procède de l'orientation évolutionniste, mais me semble autrement prometteuse et pertinente pour les SHS et pour certaines recherches relevant de votre académie. L'une des énigmes les plus profondes auxquelles s'est heurté, très tôt la théorie de l'évolution est celle de l'altruisme. Comment un individu peut-il à la fois faire preuve d'altruisme alors qu'il sacrifie une part de ses chances au profit de certains de ses congénères, et propager ses gènes en sorte que l'altruisme continue d'exister dans les générations suivantes? Or, selon toute apparence, l'altruisme est un trait qui subsiste chez l'être humain, sans pour cela commander exclusivement, bien sûr, chaque décision de chaque individu. Une autre énigme concerne un phénomène apparenté, quoique distinct, celui de la coopération. Comment est-il possible qu'elle se maintienne, à supposer qu'elle ait pu s'établir au sein d'un groupe, alors qu'il est de l'intérêt personnel de chacun de tricher, c'est-à-dire de tirer le bénéfice de la coopération sans en payer le prix? Or, il est manifeste que la coopération non seulement se maintient au sein de l'espèce humaine, mais qu'elle joue un rôle essentiel et permanent dans la société et dans le comportement individuel. Si chacun ne coopère certes pas à tout moment, c'est sur fond d'une disposition à coopérer, naturelle, quasi universelle, que s'inscrivent les stratégies qui vont à son encontre. Ces questions, altruisme, coopération, communication, sont vieilles comme les disciplines que vous représentez, quoique jusqu'à assez récemment, elles n'aient pas été posées à partir de la théorie de l'évolution. Or, dans ce dernier cadre, elles ont reçu, non certes des réponses définitives, mais des esquisses de solutions qui, cette fois, ont une portée potentielle pour les sciences de l'esprit. Les plus novatrices d'entre elles mêlent étroitement la dimension individuelle et la dimension sociale en s'appuyant sur un cadre évolutionniste. Je m'explique. Appelons, pour les besoins de la discussion analytique, la stratégie consistant à dégager un modèle du fonctionnement de l'esprit individuel, puis à élaborer une théorie du social qui tienne pleinement compte de ce modèle. À cette stratégie, que j'appelle donc analytique, s'oppose ce que j'appellerais la stratégie holiste, fondée sur l'idée que, en un sens qui reste à préciser, la dimension sociale est constitutive de la cognition individuelle, en sorte qu'on ne peut justement pas procéder en deux temps. Cette idée est ancienne. Auguste Comte voyait déjà dans le social le seul niveau réel, l'individu étant une construction culturelle postérieure, littéralement une vue de l'esprit. Sans aller jusque-là, pour toute une tradition dans les sciences sociales, l'individu est essentiellement le vecteur, le reflet local de la réalité sociale ou encore le résultat de processus sociaux. C'est notamment en l'un de ces sens la thèse du culturalisme. Or, le culturalisme, sur la boussole des sciences sociales, est diamétralement opposé au naturalisme. Et de manière générale, les théories conférant au social un rôle déterminant dans la constitution individuelle s'opposent à l'individualisme méthodologique, auquel le naturalisme contemporain, sans s'y identifier, est fortement lié. Comment est-il donc possible que la stratégie holiste puisse être évoquée dans une perspective naturaliste, sinon comme repoussoir? Eh bien, qu'elle le soit, constitue une nouveauté dans l'histoire récente du naturalisme. L'explication est que, dans la nouvelle optique, le social imprime sa marque sur l'individu, non pas une fois que celui-ci est muni de son équipement cognitif final, mais au cours de l'élaboration de cet équipement. La stratégie analytique conçoit l'environnement adaptatif comme composé essentiellement du milieu physique et des populations voisines, animales et en particulier hominines, à la manière animale. La stratégie holiste suit au contraire de l'idée que l'environnement dans lequel l'homme moderne a émergé était pour une bonne part déjà social. C'est l'hypothèse dite du cerveau social. L'esprit et la socialité de notre espèce seraient mutuellement adaptés. Ce qui distingue cette thèse du simple constat que l'homme est un être social, ou encore que Homo sapiens est une espèce sociale, telle les termites ou les loups, ce qui distingue cette thèse donc de ce simple constat est que tant la constitution cognitive de l'individu que les formes générales de la socialité sont complexes et se répondent l'une à l'autre comme la serrure et la clé. La métaphore est certes très imparfaite car elle ne conserve rien de la flexibilité de l'esprit et de la variabilité des formes sociales que personne ne songe à nier. Mais elle marque les limites de la souplesse de part et d'autre. Ce ne sont pas des tabula rasa ou tabulé rasé. On conçoit généralement que la variation dans les formes sociales résulte de l'évolution culturelle. Il ne s'agit plus ici de l'évolution biologique par sélection naturelle sur les gènes, mais d'un processus par lequel un état de la culture, quelle que soit l'extension qu'on veuille donner à ce terme, se transforme en un autre, à génome constant, si l'on peut dire, selon les voies habituelles, quoique non élucidées, des interactions sociales. Alors qu'on pourrait penser, suivant l'antagonisme traditionnel entre nature et culture, que l'évolution culturelle échappe à la visée naturaliste, elle est au contraire devenue un thème central des approches évolutionnistes. Trois raisons contribuent à l'expliquer. La première est que les chercheurs impliqués s'intéressent au social, non en tant que domaine d'application d'une nouvelle science de l'esprit, les sciences cognitives, mais en tant que telle. Ce sont des spécialistes des sciences sociales et des sciences humaines et non pas, au premier chef, des spécialistes des sciences cognitives. Dès lors, ces chercheurs ne pouvaient détourner leur regard d'une évidence massive qui est celle de la pluralité des cultures et de leur transformation à partir d'époques anciennes dont beaucoup de traces nous sont graduellement révélées. En ignorant cette évidence, ils se seraient exclus de la conversation des sciences sociales. La deuxième explication est qu'il disposait d'une ressource explicative nouvelle, résidant précisément dans une perspective, propre cette fois aux sciences cognitives, sur les processus individuels responsables de l'évolution culturelle. L'être humain possède des capacités très particulières d'apprentissage et corrélativement de pédagogie, faisant intervenir notamment un mode d'imitation unique dans le monde animal, imitation de l'intention et non celle du mouvement brut, ou de l'objet à atteindre. Du fait de leur caractère fortement adaptatif, ces capacités ont contribué, selon toute vraisemblance, à l'émergence de l'espèce et confèrent à la socialité humaine certains de ses traits caractéristiques, parmi lesquels, justement, un haut degré de coopération compatible avec une certaine liberté des agents, liberté dont ne jouissent pas les loups ou les termites. Enfin, les naturalistes peuvent appliquer à l'évolution culturelle certains concepts et outils mis au point dans l'étude de l'évolution biologique, notamment des cadres formels susceptibles de préciser et, le cas échéant, de départager des hypothèses substantielles sur les processus impliqués. L'idée la plus neuve de tout ce courant est illustrée par l'exemple de la coopération. Les capacités éducatives de l'être humain, recouvrant à la fois ses capacités à enseigner et à apprendre, sont sous le contrôle du génome. Ces capacités ont été vraisemblablement sélectionnées, en partie, parce qu'elles favorisent la coopération. La coopération, à son tour, est une forme culturelle, au sens large, au sein de laquelle les individus naturellement coopératifs jouissent d'un avantage sélectif. Formes culturelles et génomes évoluent de concert. La sélection naturelle des gènes opère dans un paysage largement constitué par certains traits culturels et contribue en retour à façonner ces traits. Ce processus, appelé coévolution gène-culture, est au cœur de l'imbrication que j'annonçais, le fer de lance de la stratégie holiste. c'est aussi un cas particulier d'un phénomène plus général nommé « construction de niche », dont une illustration facile dans le monde animal est fournie par le castor. Mu par ses gènes, le castor construit des barrages, habitat à la fois naturel et construit, dans lesquels sa constitution de mammifère aquatique herbivore lui confère un avantage décisif. De même, la coévolution gène-culture serait, selon certains chercheurs, le processus fondamental qui singularise l'homme au sein du règne vivant et donne à sa trajectoire, des origines à la stabilisation relative de son génome et puis de ce moment de stabilisation à nos jours, les propriétés exceptionnelles qu'on lui connaît. Au sein du courant holiste, le philosophe Kim Sterelny, philosophe australien, a fait œuvre à la fois scientifique et philosophique en proposant une vue synthétique mais détaillée de l'émergence de Homo sapiens. Tout en s'appuyant sur le cadre néo-darwinien, cette vue synthétique se distingue aussi bien de la plupart des théories paléo-anthropologiques que de la psychologie évolutionniste, en rejetant deux idées apparentées. Celle d'une cause naturelle unique de la divergence de notre espèce des autres lignées hominides et celle de mécanismes naturels fixes caractérisant notre appareil cognitif actuel. Pour Sterelny, l'histoire qui nous a fait et l'histoire que nous faisons résulte d'une série de confrontations avec des environnements variables, favorisant l'émergence d'une capacité d'apprentissage très particulière, reposant à la fois sur des sciences physiques et sur des processus proprement humains de pédagogie naturelle. Cette conception est en un sens naturaliste de part en part, en ce qu'elle ne prend sens que dans le cadre évolutionniste, et parce qu'elle mobilise de manière récurrente des données, des concepts, des méthodes issues des sciences de la nature. Mais elle est aussi historique et culturaliste, plaçant au centre de sa démarche, d'un côté, les contingences de l'histoire des hominines, en particulier la variabilité même de leur environnement physique et les hasards combinés des petites variations dans l'organisation sociale primitive. Et de l'autre, l'évolution culturelle comme moteur des transformations de l'homme moderne. Quatrième et dernière section, la naturalisation est-elle en marche et de quelle naturalisation s'agit-il ? Quelle réponse apporter à la question qui donne son titre à la présente communication ? Le temps ne permettait pas de proposer à la fois un tableau des recherches en cours et une discussion approfondie des perspectives philosophiques qu'elles ouvrent. J'ai fait pencher la balance du côté de la description. Pour la raison que j'énonçais en commençant, je souhaitais ouvrir la discussion, non la clore par un plaidoyer pro ou contra, appuyé sur une conception générale trop floue de ce que visent les recherches en cours et des moyens qu'elles mettent en œuvre. Reprenons alors la question titre pour en reconnaître d'abord le caractère ambigu et incongru. Selon le bon usage, naturaliser les sciences humaines consisterait soit à les empailler, soit à les transplanter dans les sciences cognitives et les y acclimater. Ce n'est évidemment pas ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on cherche à savoir, on l'aura compris, c'est si sous l'effet des sciences cognitives, les sciences humaines vont se transformer à terme en sciences de la nature. En particulier, il n'est pas question que les sciences cognitives absorbent par réduction ou élimination les sciences humaines. Il n'est pas non plus, en d'autres termes, je ne suis pas, Jean-Pierre Changeux. Il n'est pas non plus requis d'avoir au préalable tranché la question de savoir si l'homme, avec tout son bagage, est inclus dans l'ordre naturel. Ce qui est proposé, on l'a dit, c'est d'inverser l'ordre des questions. Ce que les sciences cognitives nous révèlent de l'homme, ou sont en passe de le faire, nous permet-il de faire progresser, à l'aide des méthodes caractéristiques des sciences de la nature, les questions que se posent les sciences humaines. En d'autres termes, quelle est au juste l'opération qu'elles accomplissent ou sont en passe d'accomplir ? Quels sont les effets de cette naturalisation ? L'intention naturalisante des sciences cognitives, je me répète ici, ne fait évidemment aucun doute. Elle est inscrite dans leur définition même et diversement justifiée tout au long de leur histoire. Elle recouvre néanmoins, et c'est le point ici, trois projets distincts, tant sur le plan général qu'au niveau des problèmes concrets effectivement posés. Le premier projet vise à mettre au jour le réseau des opérations informationnelles auquel équivaut l'esprit en tant qu'il pilote, pour ainsi dire, les comportements intelligents de l'être humain. Le deuxième veut rendre compte du fonctionnement du cerveau. Le troisième cherche à ramener l'esprit à un organe évolué, c'est le terme technique, résultant de l'évolution, fruit de la sélection naturelle, en identifiant ses fonctionnalités de base à partir des problèmes qu'il a plausiblement dû résoudre pour permettre à l'espèce de prospérer. S'ils sont compatibles et peuvent être considérés comme des heuristiques complémentaires au service d'un seul et même problème, ils ne partagent pas les mêmes engagements ontologiques et sont généralement loin de converger effectivement. En particulier parce que là où l'un de ces trois programmes remporte un succès, les deux autres souvent ne progressent guère. Ce qu'on pourrait appeler la stratégie polynaturaliste des sciences cognitives est ainsi à la fois plus et moins puissante qu'une naturalisation par une seule voie. Une comparaison avec les approches scientifiques de l'organisme le montre bien. L'organisme humain, peut être étudié aussi bien à un niveau fonctionnel abstrait qu'à celui de l'anatomie et de la physiologie, ou encore dans la perspective évolutionniste. Et ces trois approches se complètent. Mais le succès est assuré par le fait que le caractère naturel de l'organisme est antérieurement acquis. C'est ce fait qui garantit la convergence, par-delà les hésitations et les lacunes de chaque programme. Dans le cas de l'esprit, ce n'est précisément pas le cas. Le but est à l'inverse d'établir son caractère naturel sur la base de ce triple programme, dont la convergence, si elle se produisait, serait un puissant argument en faveur de l'hypothèse naturaliste. Or, non seulement, on l'a dit, cette convergence semble s'inscrire dans l'hypothèse la plus optimiste, dans un horizon lointain, mais chacun des programmes de recherche présente des fragilités dont on ne peut faire entièrement abstraction. Un bilan équilibré n'est pas possible. Ici, il serait en tout état de cause controversé. Là où certains voient crise, les autres voient signe de vitalité, témoignage d'une nouvelle maturité. Mais dans la perspective que je vous soumets pour conclure, ces différences d'appréciation sont d'importance secondaire. Plutôt que d'attribuer aux sciences cognitives et aux approches évolutionnistes du social qui leur sont associées, l'objectif ultime de prouver la naturalité de l'humain, comprenons-les au niveau métathéorique comme une élucidation. Elle nous révèle graduellement en quel sens précis l'être humain peut être intégré dans le tableau scientifique du monde naturel. En d'autres termes, ce qui nous est progressivement dévoilé, c'est ce qu'il faut entendre par naturalisation, celle de l'humain et corrélativement celle des sciences humaines. Le principal enseignement que nous pouvons tirer de l'histoire récente, selon moi, est que, loin d'être fixé une bonne fois, par référence à on ne sait quelle essence de la nature ou des sciences de la nature, la naturalisation de l'homme coévolue avec les sciences naturelles de l'homme. À mesure que celle-ci progresse, celle-là revêt des formes nouvelles. En l'occurrence, nous constatons que l'être humain incorpore l'histoire de l'humanité, une histoire certes naturelle, mais qui n'en est pas moins historique, donc contingente, et que sa condition actuelle, pour intelligible qu'elle soit dans la perspective naturaliste, n'en est pas moins l'aboutissement de l'évolution culturelle, le fruit de l'accumulation de ce que Sterelny appelle le capital social. Ce naturalisme historicisé ne fera certes pas l'unanimité des naturalistes. Le titre de mon ouvrage est précisément « Le naturalisme critique ». Donc je n'ai pas que des amis parmi les naturalistes. Donc ce naturalisme historicisé ne fera certes pas l'unanimité des naturalistes, que ce soit sur le plan descriptif ou prescriptif. C'est pourtant celui qui me semble résulter d'un examen du paysage scientifique et celui aussi qui me semble devoir être défendu à titre d'heuristique pour les sciences humaines. Est-ce à dire que celles-ci peuvent l'admettre sans discussion, sans réviser ou infléchir leur choix méthodologique? Comme elles sont plurielles, la réponse varie de l'une à l'autre. Mais beaucoup de chemin reste à parcourir pour trouver un accord général. Sur certaines des grandes questions, le courant naturaliste et l'opinion majoritaire au sein des sciences humaines continuent de s'opposer. L'espoir est que les deux camps, au lieu de se vouer, comme elles l'ont longtemps fait, une hostilité bougonne, rechercheront activement un cadre théorique englobant, construit sur des bases tant empiriques que conceptuelles, que nous commençons seulement à entrevoir.
remercie, mon cher collègue, de cette conférence extrêmement riche, très remplie, que nous avons écoutée avec beaucoup d'attention. Elle suscite un certain nombre de questions et je vais donc donner la parole d'abord à monsieur le recteur Saint-Cernin.
Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord dire à Daniel Andler combien je suis heureux de l'écouter de nouveau. Nous avons été de vieux complices pendant une dizaine d'années à l'École normale où nous avons eu un séminaire de philosophie des sciences. Je voudrais lui poser une première question. C'est la suivante. À la fin du 19e siècle, Freud d'un côté et Husserl de l'autre rompent un petit peu le lien entre la psychologie et la biologie. Freud, qui est au fond d'intention ou de projet naturaliste, un petit peu au sens où vous l'entendez, découvre que finalement la biologie n'est pas suffisamment avancée pour que la psychiatrie puisse en tirer des leçons. Et il décide d'utiliser une stratégie complètement différente. À la même époque, Edmond Husserl, fondateur de la phénoménologie, prend aussi pour adversaire principal le naturalisme. Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est à partir de quel moment on peut estimer que les progrès de la psychologie expérimentale et plus généralement de la biologie évolutionniste ou non permettent de surmonter cet obstacle consenti à la fois Freud et Husserl. Et ma deuxième question, de quelle nature serait, vous avez dit que le grand ennemi de du naturalisme, c'est le dualisme. Il faut donc imaginer que les phénomènes naturels ont au fond une sorte d'unité et que l'esprit humain, si on veut construire une science, peuvent au fond en exprimer la substance, le fonctionnement, la nature, par une langue ou par une logique unifiée. Alors, il y a eu un texte tout à fait étrange de Claude Lévi-Strauss paru dans Les Temps modernes en 1969 où il disait « La langue qui permet d'unifier les sciences de la nature et les sciences humaines, nous l'avons trouvée, c'est au fond la linguistique de Jacobson ». Alors, qu'est-ce qu'on dirait 40 ans plus tard? Est-ce qu'il y a une unification en vue? Est-ce que c'est l'idée que la nature est accessible à travers les ordinateurs, qu'elle se comporte comme l'intelligence artificielle? Est-ce à travers la logique? Ou est-ce au contraire, comme Husserl lui-même disait en 1936, il notait que finalement, la biologie, qui était apparemment si en arrière des mathématiques et de la physique, était peut-être ce qui permettait de mieux exprimer la singularité des opérations de l'esprit. Voilà mes deux questions.
Monsieur d'Espagna.
Merci, Monsieur le Président. Ma question, enfin plutôt une remarque assez générale, qui s'inscrit assez bien dans la suite des questions posées par Monsieur Saint-Cernin. Cette remarque m'est inspirée par l'usage du mot « naturaliser ». Les sciences de l'esprit, les sciences humaines, les sciences cognitives, etc., que vous avez employé dans votre titre et que vous avez développé au début de votre exposé. Naturaliser, le verbe naturaliser semble signifier, enfin, naturaliser les sciences s'intéressant à l'esprit, ce serait les ramener aux sciences de la nature. C'est ça que vous avez dit, grosso modo. C'est donc, grosso modo toujours, les ramener l'esprit au fonctionnement du cerveau. Or, le cerveau, c'est des neurones, etc., c'est ce genre de choses. C'est un fonctionnement collectif d'objets très petits. Et quand on commence à réfléchir à des objets très petits, même s'ils sont encore très gros vis-à-vis des atomes, ça donne quand même l'idée, enfin, ça rend difficile le fait d'ignorer complètement la physique. Et en particulier, et surtout, la physique des objets petits. Donc, toujours dans la même ligne de pensée, de se poser la question, quelle est la nature des objets très petits ? Les atomes, par exemple. Et alors là, on ne peut pas ignorer le fait que la physique actuelle est entièrement dominée, ou quasiment entièrement dominée, par la mécanique quantique. Vous savez naturellement, mieux que quiconque, vous connaissez ce fait. Et alors, la mécanique quantique a une particularité. Il n'y a qu'une seule chose qui soit compréhensible, qui soit établie, qui soit sur laquelle tous les physiciens sont d'accord, c'est que la mécanique quantique est une recette universelle qui fonctionne remarquablement bien. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Seulement, là où on commence à avoir des difficultés, c'est quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'elle décrit. Beaucoup de physiciens sont encore des réalistes, c'est-à-dire que, bon, ils sont instruits par une longue expérience de la physique classique, etc. Et donc, ils cherchent quelle est la réalité de ces objets dont la mécanique quantique parle. Et là, des très grosses difficultés commencent. Et il semble, vous n'entraînez pas dans les détails, mais il semble que vraiment le caractère essentiel de la mécanique quantique, ce soit, que, comme vous le disiez à l'instant, que c'est une recette universelle de prédiction d'observation. Or, qui dit prédiction d'observation, dit esprit, naturellement. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de prédiction. Par conséquent, il semble que, si vous voulez, le fonctionnement de l'esprit se trouve non pas comme ce minime oiseau spirituel dont parlait Valérie, mais comme se situant à un niveau très fondamental. Et dans ces conditions, on peut se demander, me semble-t-il, si on... C'est une question philosophique, c'est pas une question pratique, bien sûr, mais on peut se demander si essayer à toute force de naturaliser les sciences de l'esprit, précisément, ce n'est pas inverser les choses, inverser les... Et finalement, c'est... Enfin, c'est une question qui peut se poser. Je ne prétends pas la résoudre, la trancher, mais il me semble que c'est une question importante qui peut se poser. Et il me semble qu'il serait souhaitable que les philosophes, en particulier, puisque c'est une question de philosophie, s'intéresse d'un peu plus près au problème que pose la mécanique quantique, justement pour cette raison-là, vous voyez, et que peut-être que ça mettrait un peu d'eau dans le vin des gens qui pensent à naturaliser les sciences de l'esprit sans trop se poser les questions sur ce que ça veut dire le mot naturaliser. Voilà, merci.
Monsieur d'Espagna, Madame Delmas Marty.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser deux questions qui me sont suggérées par cette communication qui est extrêmement riche, extrêmement dense aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui est différent dans les deux catégories des sciences cognitives et des sciences humaines et sociales, c'est moins l'objet que le processus, c'est-à-dire que les sciences cognitives s'inscrivent dans un processus d'évolution biologique qu'on pourrait appeler l'hominisation, qui se fait autour d'une espèce unique, alors que les sciences humaines et sociales s'inscrivent dans un processus d'évolution culturelle qui s'est réalisé à travers des cultures, à travers des humanisations multiples, plurielles. Ce qui fait que si l'évolution culturelle, finalement, n'échappe pas à la biologie, est-ce que la naturalisation des sciences humaines n'annoncerait pas la disparition de la pluralité des cultures? Alors que, alors là, je parle en juriste, nous avons un texte de 2001-2005 de l'UNESCO qui proclame que la diversité culturelle est le patrimoine commun de l'humanité, qu'elle est aussi importante pour l'homme que la diversité biologique pour la nature. Donc ça, c'est la première question. Je me dis qu'il y a peut-être un accord possible à trouver sur le fait que les deux processus sont différents, mais sont indissociables. On ne peut pas ou on ne devrait pas les dissocier. Mais alors ça m'amène à une deuxième question plus ponctuelle. Comment expliquer que dans le code pénal français, on ait maintenant, depuis quelques années, deux crimes qui sont définis comme deux crimes différents, avec des peines différentes, qui sont le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine, qui a été rajouté il y a quelques années. Le crime contre l'espèce humaine, concrètement, ce qui a été qualifié tel, c'est d'une part l'eugénisme, et d'autre part le clonage reproductif humain, à supposer qu'il devienne un jour réalisable. Donc ça, c'est la deuxième question, mais elles sont très liées l'une à l'autre.
Madame la vice-présidente.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous remercie pour cette communication qui était vraiment très intéressante. Ma question est la suivante, assez rapide. On se souvient de tout le débat qu'il y avait eu. Enfin, à certains endroits, il n'y avait pas de débat autour de l'hérédité des caractères acquis qui avait été diffusé dans toute l'ère soviétique et notamment autour de Lysenko, mais... Évidemment, c'était beaucoup plus vaste que ça. L'hérédité des caractères acquis répondait bien sûr aux besoins théoriques du communisme. On se souvient, par exemple, on se rappelle ce pauvre Kammerer qui, si je ne m'abuse, avait triché en injectant de l'encre sous la peau des grenouilles pour faire semblant, enfin, pour faire comme si ça marchait, l'hérédité des caractères acquis. Et on s'était rendu compte après, que finalement tout ça était une aberration. Enfin, si j'apprends à jouer au piano, ce n'est pas pour ça que quand j'aurai un enfant dans son berceau, il va jouer du piano, n'est-ce pas? On a l'impression que depuis une quinzaine d'années, c'est précisément ma question, il y a une sorte de réhabilitation de l'hérédité des caractères acquis, bien sûr et certainement d'une autre manière que Lysenko, mais tout de même. Et je voulais vous demander si il était question de cela précisément dans votre exposé, et si oui, si je ne me suis pas trompé, si vous pouviez nous en dire un peu plus.
Merci. Monsieur Soutou.
Monsieur le Alors, je vous remercie. J'avais deux questions. La première vient d'être posée par Madame Del Sol, donc je la passe. Et je voudrais, après vous avoir, monsieur, cher collègue, remercier pour l'exposé extrêmement riche et en même temps tout à fait clair, même pour des universitaires peut-être un peu plus éloignés de ces sujets. Je voudrais vous demander s'il existe ou s'il n'existe pas, ou si ma question est purement une interrogation, bah, je cherche pas, s'il existe, s'il n'existe pas, s'il existe, alors dans, de quelle nature, s'il existe un lien entre cette évolution naturaliste des sciences cognitives, etc., et ce que l'on a appelé, ça me paraît moins à la mode actuellement, le structuralisme ou les structuralismes, peut-être, dans les sciences humaines. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de rejoindre tous nos collègues sur l'appréciation extraordinairement élogieuse qu'ils ont eue à l'égard de l'exposé que nous venons d'avoir, qui est absolument fascinant. J'ai deux questions. La première concerne le concept d'émergence. Est-ce que le concept d'émergence a un sens dans votre perspective scientifique ? Notre collègue d'Espagna nous disait « Tout commence à la physique corpusculaire, la mécanique quantique ». Une présentation possible est « On passe de la mécanique quantique à la chimie et il y a émergence de la chimie à partir d'une base qui est fondamentale, puis la biologie émerge, puis bien entendu les espèces et l'évolution darwinienne ». Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose ? C'est-à-dire qu'à partir de la coévolution gène-culture fascinante que vous avez évoquée devant nous, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous sommes maintenant dans une phase d'accélération extraordinaire et d'émergence de la science, de la technologie, de l'économie, du droit, de la politique, de l'histoire? Et dans ce cas-là, alors, au niveau de ces concepts-là, on est en plein chez nous, si je puis dire, dans les sciences morales et politiques, sans pour autant que l'on puisse nous critiquer en disant que nous n'avons pas conscience du fait qu'à part tout cela se construit à partir des, je dirais, du réseau de cerveau humain né de l'évolution ou de la coévolution gène-culture. La seconde question, très brève, si on prend le filtre de Karl Popper pour repérer ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique, est-ce que vous avez des expériences qui permettraient de réfuter certaines des avancées des sciences cognitives ?
Mais merci. Y a-t-il d'autres? D'autres questions ?
Monsieur Ménard.
Monsieur Ménard, oui, Monsieur Ménard.
Merci, Monsieur le Président. Je suis arrivé pour entendre cette communication avec une idée préconçue que j'ai soumise d'ailleurs à notre orateur. Je lui ai dit que j'étais brouillé avec les sciences cognitives. Et pourquoi ? On pourrait dire parce qu'elles ne font que prendre la place d'autres disciplines déjà existantes. Par exemple, l'épistémologie. Je dirais qu'une bonne partie de ce qu'apportent les sciences cognitives, c'est de la théorie de la connaissance, c'est l'épistémologie. Donc, pas besoin d'inventer un nouveau terme. Et j'ajoute qu'il y a plus grave, c'est que dans cette définition de ces sciences positives, je dirais qu'elles ne sont pas des sciences. Elles ne sont pas ce que je considère comme étant des sciences. C'est-à-dire, notamment puisqu'il s'agit de sciences de la nature et de sciences qui sont formées de résultats obtenus par des expériences rigoureuses. Or, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de résultats obtenus par des sciences rigoureuses dans les sciences cognitives. Et s'il y a des résultats, ils sont tirés d'autres sciences, des vraies sciences de la nature, de la physique, de la psychologie, etc. Mais toutes ces sciences, à partir du moment où elles deviennent sciences cognitives, elles sont liées à des postulats que j'appelle métaphysiques. Le naturalisme, c'est un postulat métaphysique. De même que... je dirais que ce n'est pas autre chose qu'un autre nom du matérialisme. Ce n'est pas autre chose qu'un autre nom. Donc, nous sommes dans le domaine de la philosophie. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine de la science. Voilà les gènes que j'éprouve.
Merci, M. Ménard. Bon, je voudrais ajouter quelques remarques, si vous voulez bien. J'ai été frappé par l'extrême souplesse l'antidogmatisme qui est le vôtre. Dans la définition, si je puis dire, pratique, avec leur programme, avec leur démarche, des sciences cognitives. Vous avez, si vous voulez, mis de côté dans une large mesure la question du choix d'une métaphysique, si je ne me suis pas trompé. Donc, je tiens ça comme tout à fait positif. Quant à l'objet des sciences cognitives, qui est l'objet traditionnel de la psychologie, etc., aussi des sciences sociales, cet objet, dans votre langage, vous l'associez presque constamment, vous l'identifiez presque constamment. Le problème est de savoir s'il y a une flèche dans cette équation et d'où elle part et où elle arrive. Vous l'associez, vous l'identifiez constamment au cerveau, l'esprit. L'esprit est le cerveau. L'esprit est la nature. Mais vous avez reconnu qu'au niveau même de cet objet qu'on pourrait appeler l'esprit et que vous appelez le cerveau, il y a déjà un fait qui est celui de ce que vous avez désigné comme une certaine liberté. Et M. Trichet a évoqué l'existence d'un fait qu'on lit, même s'il y a une promotion de l'un à l'autre, au fait de la liberté, le fait de l'émergence. Ça veut dire que dans l'évolution, tout se passe comme si la causalité devait être chargée d'un excès au niveau de son effet par rapport à elle-même. Mais c'est alors ce qui permet, je crois, de lire le processus évolutif, non pas simplement comme un processus qui serait ascendant, partant de ce qui est plus matériel, plus naturel, pour s'élever à une nature moins matérielle et plus immatérielle, mais on peut aussi, en raison même de cet excès au niveau de ce qu'on pourrait ne pas considérer comme un simple effet, on peut considérer qu'il y a là la manifestation d'une certaine finalité. Aristote a été un très grand naturaliste, et cependant, il suspend tout à l'esprit. Par conséquent, même au niveau de ce qu'on peut considérer comme la nature ou le cerveau, on peut trouver un fait qu'on a généralement logé dans le domaine de la liberté. Alors, le problème, enfin c'est une question que je vous pose, croyez-vous pas que le grand choix, même quand on parle de l'esprit, c'est entre l'affirmation d'une nature, une philosophie de la nature, ou au contraire, une philosophie de la naturation ou de la naturalisation, mais la naturalisation ou la naturation, on peut considérer, puisqu'elle constitue un mouvement, qu'elle part d'autre chose que de la nature, à savoir de l'esprit. Est-ce que l'incarnation ou la naturation n'est pas radicalement antinaturaliste et ne manifeste-t-elle pas l'essence même de l'esprit, ce qu'on admettra si on adhère à une philosophie, par exemple, imprégnée et marquée par le christianisme? Moi, je suis pour la naturalisation dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine pratique et politique, je fais l'éloge de la naturalisation l'esprit doit se naturaliser et l'adoption de la nationalité ne peut pas consister simplement dans l'idéalité ou l'abstraction d'un contrat, mais dans l'acceptation par celui qui intègre une nouvelle nation de cette habitude de vie, de cette pratique qui définit une nationalité et dans laquelle l'intégrant doit se couler, même s'il pourra, dans l'avenir, avec ceux qui sont déjà nationaux, s'efforcer de faire évoluer cette nation. Par conséquent, quelqu'un qui admet le primat de l'esprit peut faire l'éloge résolu de la naturation ou de la naturalisation. Par conséquent, finalement, je crois que vous avez raison de séparer la pratique des sciences cognitives et avec la fonction et la désignation que vous leur assignez, d'introduire plus de considérations naturalisantes dans la psychologie ou les sciences sociales. Vous avez raison, me semble-t-il, d'avoir cette prudence méthodologique et épistémologique et de laisser, si vous voulez, complètement indépendant, si peut-être que je force votre intervention, de laisser complètement indépendant et non concerné, au fond, par le développement des sciences cognitives, le grand choix, à savoir, est-ce que c'est l'esprit qui est premier, étant donné qu'on peut se considérer qu'il n'a rien de mieux à faire que de se naturer et de s'incarner, ou au contraire, est-ce que c'est la nature qui est première? Voilà comment je vous ai entendu, mais peut-être vous ai-je caricaturé.
D'abord, je peux. Bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, je remercie les intervenants pour leurs questions extrêmement pertinentes qui montrent que ce que je craignais, à savoir un rejet massif et résolu, ne s'est pas exprimé. Au contraire, et je suis très heureux de ces questions, on m'a demandé de me restreindre, il reste quoi, une vingtaine de minutes, 15 minutes, donc ça va être un petit peu difficile. Alors d'abord, je vais peut-être, pour orienter mes quelques commentaires qui ne vont pas du tout couvrir l'ensemble des questions, ce que je crois, vous souvenez qu'il y avait autrefois des livres qui étaient intitulés « Ce que je crois », il y en a eu toute une série. Je ne suis pas un naturaliste, disons, pur et dur, vous l'aurez compris, et en réalité je défends, et je suis très loin d'être le seul, ma ligne n'est pas spécialement originale, il y a actuellement tout un courant qui fait ce que j'essaye de faire à ma modeste manière, c'est-à-dire comment rendre compatible l'idée que ces sciences cognitives, la théorie de l'évolution, les modèles formels, il faudra parler un petit peu des modèles formels, font progresser la connaissance et nous éclairent, nous apportent quelque chose. Et qu'il faut donc, sur le plan purement pragmatique, vous parliez d'une question de politique, n'est-ce pas, de naturalisation au sens d'acquérir la nationalité. Je parle aussi, puisque j'ai joué un petit rôle dans l'organisation des sciences cognitives, dans l'intégration des sciences cognitives et de la philosophie, j'ai été de ceux qui ont amené un certain nombre de jeunes philosophes à réfléchir à ces questions, comme philosophe des sciences, et j'y reviens dans un instant. Mais le fait est que j'ai été, comme on disait autrefois, un allié objectif des sciences cognitives. Et je me suis posé à moi-même la question de savoir pourquoi je me faisais en quelque sorte le serviteur des sciences cognitives, alors même qu'elles contiennent certainement des éléments qui, poussés à l'extrême, me font aller au-delà de mes propres convictions. Et c'est à cette occasion que j'ai développé ma réflexion sur le naturalisme et que j'ai développé une idée de ce que j'appelle, qui est une idée banale d'ailleurs, qui est une idée de chemin médian, l'idée de naturalisme méthodologique, c'est-à-dire, encore une fois, l'idée qu'il est bon de pousser la recherche de connaissances, tant qu'il c'est évidemment une authentique recherche de connaissances et pas une idéologie ou une fantaisie quelconque, aussi loin que possible. Mais que nous ne sommes nullement contraints intellectuellement à accepter ni au départ ni à l'arrivée une thèse de naturalité intégrale. Et en réalité, je suis loin d'être le seul à le penser, la seule attitude qui me paraît vraiment défendable, c'est celle d'un pluralisme conceptuel. Le langage de la science, et notamment des sciences de la nature, se développe dans un certain contexte, dont l'épistémologie en particulier est chargée de préciser les articulations et les présupposés. Et cette articulation primitive, ces présupposés, sont eux-mêmes relèvent d'un choix philosophique, d'un choix métaphysique, qui lui-même n'est pas soumis, donc, par je ne sais quel bouclage, à l'impératif de la naturalité. En tout cas, c'est ma conviction. J'ai voulu rapidement, et de manière très maladroite, je m'en excuse, exposer, vous dire que tout en défendant les sciences cognitives et leur intérêt, et la théorie de l'évolution et son intérêt et sa pertinence, j'ai voulu vous dire pourquoi je ne me sens nullement contraint de mettre, encore une fois, ni au départ, ni à la fin de ma démarche, un postulat naturaliste intégral. Ça, c'est la première chose. Alors, je voudrais très rapidement répondre sur la question de l'épistémologie et de savoir si c'est une fausse science, etc. Les sciences cognitives elles-mêmes recouvrent un grand nombre de recherches scientifiques publiées dans les meilleures revues spécialisées, avec des expériences, de la réfutation, de tout ce qu'il faut pour être de véritables sciences. Je donne juste un exemple, n'est-ce pas ? Nous savons maintenant que très tôt, le jeune enfant possède des capacités de reconnaissance. Il peut, par exemple, reconnaître le visage de sa mère, il peut reconnaître la voix de sa mère, il peut reconnaître la langue de la voix de sa mère, alors même que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ce ne sont pas des résultats qu'on établit, en quelque sorte, à partir d'une considération philosophique de ce qu'est un nourrisson. Au contraire, ils sont plutôt contre-intuitifs. On pense qu'un nourrisson ne comprend rien, ne voit rien, ne reconnaît rien. Ça n'est pas le cas. Donc, les sciences, la psychologie du développement en l'occurrence, qui est une des plus belles branches des sciences cognitives, qui est parfois, je dis ça aux étudiants, c'est un petit peu une caricature, c'est une sorte de Kant appliqué, ça nous oblige à revoir quelles sont les bases même, en quelque sorte, dans lesquelles se développe notre entendement. En tout cas, ce sont tout à fait des sciences. Et en revanche, il est vrai que mon propos était philosophique, c'est-à-dire j'ai présenté rapidement et de manière sommaire et en partie allusive et implicite les sciences cognitives, et j'ai dit pourquoi certains peuvent penser que le fait que les sciences cognitives apportent des informations, des faits scientifiques sur notre fonctionnement mental, pourquoi c'est de nature, en quelque sorte, ça a une portée potentielle sur les sciences humaines et sociales, et y compris les sciences morales et politiques. Je prends quelques exemples. La décision. Voilà un thème qui est au centre de M. Trichet. Toute la salle ici est concernée par la décision. Comment se fait la décision ? Quelle est la décision ? Comment est-ce que un citoyen ordinaire, un agent économique, une mère inquiète devant son enfant malade, en éthique clinique, enfin dans toutes ces conditions-là, les décisions se prennent. Elles se prennent effectivement par des êtres humains qui sont de chair, qui essayent d'invoquer des normes, des valeurs, des faits. Ils écoutent les conseils des uns, les conseils des autres. Tout ça, c'est le cœur de votre métier, de votre préoccupation. Eh bien, si les sciences cognitives, comme je le pense, sont en mesure d'apporter des informations contre-intuitives, bien sûr, s'il s'agit seulement de dire au fond les choses. Moi, mon père était très contre la psychologie, il disait que c'était la science du défonçage, du défoncement des portes ouvertes. Je ne le pense pas du tout. La psychologie du développement, la psychologie cognitive, les sciences cognitives en général, les neurosciences sur la question de la décision nous révèlent des choses que nous ne savions pas sur la décision. Pour autant, bien entendu, quand les sciences cognitives de la décision se développent sur fond d'une certaine conceptualité qui, elle, nous provient de la tradition, des sciences morales et politiques, de la philosophie. Et c'est dans une interaction entre ces deux approches, disons, ou ces deux sources de connaissances et de réflexion, que peut jaillir un certain progrès sur la question, par exemple, de la décision. Nous avons tous été témoins ces dernières années de cas de stupidité collective. C'est une vieille affaire, la folie des foules et tout ça. Mais nous savons aussi qu'il y a des exemples d'intelligence collective extraordinaire. Des moments où une assemblée de personnes produit mieux que ce qu'aurait produit le meilleur d'entre elles ou le meilleur d'entre eux. Qu'est-ce qui distingue les cas dans lesquels il y a stupidité collective et les cas dans lesquels il y a intelligence collective? Alors, vous me direz, ce sont des questions classiques de nos disciplines. Nous n'avons pas besoin de vous, monsieur des sciences cognitives ou monsieur de la théorie de l'évolution. Certainement, nous, les sciences cognitives que je représente ici, ne prétendent pas se substituer. Ça, c'est ce que disait d'ailleurs Madame Mireille Delmas-Marty. Les démarches sont étroitement associées. La question, donc, il n'est pas question de se substituer, il n'est pas question de réduire, en particulier à cause du phénomène souligné par M. Trichet, qui demandait si l'émergence était revenue. Alors l'émergence a connu un moment de gloire dans les années 1920. Il y a eu tout un mouvement émergentiste. Ensuite, il est vrai que l'épistémologie et les sciences ont plus ou moins exclu la notion d'émergence comme étant floue, et ainsi de suite, ne correspondant au fond à rien de concret. Et puis l'émergence refait surface aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, la théorie des systèmes complexes, la biologie, les sciences cognitives. Et nous vivons une véritable renaissance de la notion d'émergence. Et je crois que la notion d'émergence crée effectivement des différences de niveau qui font qu'effectivement, dans une certaine mesure, vos disciplines sont en partie effectivement protégées ou filtrées des apports des sciences cognitives et de la théorie de l'évolution. C'est tout à fait exact. La petite différence, peut-être, qui existe d'opinion entre certains d'entre vous et ce que je veux défendre, c'est que cette frontière n'est pas fixe. Voilà. Cette frontière est mouvante et elle se déplace à mesure que nos connaissances sur, d'une part, les fonctionnements élémentaires de l'esprit humain, deuxièmement, le passage de ces fonctionnements élémentaires à des fonctionnements sociaux, et troisièmement, le niveau de la délibération, de la liberté de l'esprit, de la concertation. À quel moment ce niveau se dégage-t-il, d'une certaine façon, des niveaux inférieurs? Et donc, mon idée, ma suggestion, c'est que cette différence, cette séparation des niveaux n'est pas celle qui est, disons, consacrée par la tradition. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de s'y attacher particulièrement. Est-ce que vraiment ça limite le domaine de la liberté de savoir que, en situation d'urgence, quelqu'un tombe dans la rue, il faut faire quelque chose, eh bien, une partie de notre conduite est dictée par notre expérience récente d'une manière qui est un tout petit peu mystérieuse et que les sciences cognitives peuvent nous aider à mieux comprendre. Donc je pense qu'il n'y a pas véritablement de menace de ce côté-là. Je sais que le temps m'est compté. Si vous me permettez, je parcours très rapidement mes notes parce qu'il y avait tellement d'excellentes questions. Je prends la question de M. Saint-Cernin, que je remercie beaucoup. Sa première question, à partir de quel moment est-ce que, au fond, la situation qui était celle de Freud et de Husserl a changé? Ben, je dirais c'est à partir du moment, alors c'est un peu provocant, mais c'est à partir du moment où la biologie sait, comment dire, spiritualisé. Alors évidemment, c'est un peu, je pousse le bouchon un petit peu loin, c'est à partir du moment où la biologie a su intégrer les concepts fondamentaux de la théorie de l'information. Grâce à Shannon, grâce à Turing, grâce à un certain nombre de chercheurs qu'on regroupe parfois sous l'étiquette un peu vague de cybernétique, la biologie est devenue une science de l'information. Or, qui dit information dit sens, dit valeur, c'est-à-dire introduction ou réintroduction au sein des sciences de la vie de notions proprement humaines. Alors, bien entendu, c'est au prix d'une simplification, d'une schématisation, mais cette schématisation a permis effectivement à la biologie de se saisir de la notion d'information et de là de la notion d'esprit. Alors que l'esprit ne se réduise ni au cerveau, ni même au traitement abstrait de l'information, j'en suis le premier convaincu, je n'ai pas la compétence ni le temps de développer le point particulier qu'a développé M. Bourgeois. Je crois qu'il y a compatibilité entre la vision qu'il a défendue et ma vision à moi. Quant à certains naturalistes, ils diraient non, il n'y a pas de finalité. Dans la nature, il n'y a pas de finalité. Et au fond, la grande différence, au fond, c'est ce que vous disiez, Monsieur Bourgeois, la grande différence entre le naturaliste radical et vous-même, c'est cette question de la finalité. Y a-t-il de la finalité quelque part ou n'y en a-t-il pas ? Et moi, je ne tranche pas, et certainement, je n'épouserai pas le parti. Je resterai prudent, disons, mais je n'épouserai pas le parti du naturaliste. Je n'ai effectivement aucune raison, et c'est un autre thème de certaines questions. Il est clair qu'il y a un soubassement métaphysique dans tout cela, mais qu'il y a, comme vous l'avez très bien souligné, M. Bourgeois, une certaine autonomie entre les engagements métaphysiques et le travail concret de la science. Excusez-moi. Oui, Lévi-Strauss, oui. Alors, Lévi-Strauss a été, effectivement, comme le souligne très souvent Dan Sperber, a été un pionnier. C'est il a certainement anticipé bon nombre des thèmes et de l'esprit, en quelque sorte, naturaliste, qui est celui des sciences cognitives aujourd'hui. En revanche, l'idée d'une langue unique, elle est défendue, effectivement. Il y a l'idée d'une sorte de langage de la pensée, dont certains, que Claude Panaccio, notre collègue de Montréal, fait remonter d'ailleurs à Guillaume d'Occam, l'idée qu'il y a une sorte de langage unique de la pensée dans lequel s'expriment toutes nos pensées. Mais même si c'était le cas, à mon avis, le langage, le métalangage dont nous avons besoin pour déchiffrer les processus naturels de la pensée, même les plus humbles, est lui-même un langage artificiel, un langage fabriqué, qui repose sur certaines présupposés qui peuvent à tout moment être remis en question. Et non seulement ils peuvent être mis en question, mais ils sont mis en question par la pluralité même des sciences. Je ne crois pas à l'unité des sciences, personnellement. Je ne crois pas que les sciences cognitives aillent vers une convergence parfaite. Je crois que les sciences, les neurosciences progressent, la psychologie du développement progresse, la théorie de l'évolution appliquée à l'homme progresse, mais je ne crois pas que nous allions vers une fusion de tous ces langages, une fusion de toutes ces théories pour la constitution d'un tableau unique du fonctionnement de l'esprit humain. Je ne le crois tout simplement pas. Malheureusement, je crois que, Monsieur le Président, je dois m'en tenir là. Je n'ai pas du tout rendu justice aux excellentes questions, notamment celles qui concernent la mécanique quantique. Il y a toute une recherche de la mécanique, de théorie de l'esprit, et de la rencontre de la théorie de l'esprit et de la mécanique quantique, mais donc il est tout à fait impossible de rendre compte ici. Merci beaucoup.